Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 5 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord, les titres du journal. Le coroner de Nouvelle-Galles du Sud a rendu ses conclusions suite à l'enquête sur les attaques à l'arme blanche au centre commercial Westfield Junction de Bondi en avril 2024. L'administration Trump a exhorté plusieurs pays, dont l'Australie, à se joindre à une nouvelle alliance commerciale sur les minéraux critiques afin de contrer la domination chinoise dans ce secteur. Les tensions internes empêchant la réformation officielle de la coalition, la sénatrice nationale du Parti national, Bridget McKenzie, défend le refus de son parti d'accepter une suspension temporaire du cabinet fantôme. Et on passe au journal de ce jeudi en Australie. Le coroner de Nouvelle-Galles du Sud a rendu ses conclusions suite à l'enquête sur les attaques mortelles à l'arme blanche au centre commercial de Westfield Junction de Bondi en avril 2024. Parmi les conclusions du coroner, il ressort que l'un des agents de sécurité désigné par un nom de code n'était pas suffisamment préparé pour surveiller seul le système de vidéosurveillance du centre et intervenir face à un incident de cette ampleur. Le coroner a également constaté un retard de la part de Westfield Bondi Junction dans le déclenchement des alertes et alarmes après l'apparition de l'homme armé dans le centre. Le coroner a conclu que malgré le dévouement exceptionnel des agents, la police de Nouvelle-Galles du Sud a temporairement dissimulé des informations cruciales au service d'ambulance. Un projet de loi a été présenté au Parlement fédéral ce jeudi afin de garantir le statut permanent et indépendant du commissaire national aux droits des enfants des Premières Nations. Cette mesure officialise la nomination l'an dernier de Suhan Anne Hunter au poste de première commissaire nationale à temps plein pour les jeunes aborigènes et insulaires du détroit de Torres. Les enfants des Premières Nations ont 27 fois plus de risques d'être placés en centre de détention pour mineurs que leurs pères non autochtones et 10 fois plus de risques d'être placés en famille d'accueil. La ministre des Services sociaux, Tania Plibersek, a présenté le projet de loi au Parlement ce matin.
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced by Aboriginal and Torres Strait Islander children at the time as, and I quote, widespread, systemic and intergenerational. Sadly, these sobering assessments have continued, but so too has the tireless advocacy to change them.
Le gouvernement australien examine actuellement l'opportunité de rejoindre le Conseil de paix nouvellement créé sous la présidence américaine de Donald Trump. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, demande des précisions à l'administration américaine concernant l'objectif et les modalités de fonctionnement de ce conseil. Penny Wong a déclaré sur la chaîne ABC que l'Australie est engagée dans de nombreux accords de sécurité avec les États-Unis et que ce conseil ne correspond pas au type d'accord de sécurité auquel l'Australie participe habituellement.
Border peace proposal would involve Australia being part of a treaty. Obviously, that is a different kind of arrangement to those which we would generally engage in for these sorts of matters. We are obviously considering, but I would say we continue to work closely with the United States for, particularly in the context of the Quad and also AUKUS.
L'administration Trump a exhorté plusieurs pays, dont l'Australie, à se joindre à une nouvelle alliance commerciale sur les minéraux critiques afin de contrer la domination chinoise dans ce secteur. La ministre australienne des Ressources, Madeleine King, participe à une réunion ministérielle à Washington aux côtés de représentants de l'Union européenne et de 53 autres nations. Le vice-président américain J.D. Vance a encouragé les pays à adhérer à ce bloc commercial qui garantirait des prix stables pour les matières premières essentielles aux industries de pointe telles que la défense, l'énergie et les technologies.
So this morning, the Trump administration is proposing a concrete mechanism to return the global critical minerals market to a healthier, more competitive state. A preferential trade zone for critical minerals protected from external disruptions through enforceable price floors.
Le Parti libéral et le Parti national demeurent dans une impasse, les tensions internes empêchant la réformation officielle de la coalition fédérale. La sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, défend le refus de son parti d'accepter une suspension temporaire du cabinet fantôme. Elle affirme cependant que cette semaine, le Parti national s'est activement employé à s'opposer à la politique budgétaire du gouvernement.
Sarah, we've been getting on with actually doing our job here in Parliament this week. We've been trying to get an inquiry up around $120 billion of overspends by Jim Chalmers.
L'ancien ministre libéral Christopher Pyne a conseillé aux membres de la coalition de cesser de divulguer publiquement les luttes intestines et se concentrer sur leur rôle d'opposition, s'exprimant au National Press Club hier en sa qualité de nouveau président du Conseil de vieillissement. Il a salué le leadership de Susan Lee et a appelé ses anciens collègues à se tenir à l'écart des médias.
Since May, there's been an endless public dispute. My former colleagues probably need to stay off the television and the radio unless they want to talk about the Labour Party and the government. Their job is to oppose the government and to point out its deficiencies, praise them when they're right, criticise them when they're wrong. It's not to endlessly talk about the internal dynamics of either the Liberal Party, the leadership, or the coalition in the press.
Au moins trois députés travaillistes de Nouvelle-Galles du Sud ont annoncé leur intention de braver le Premier Chris Minns pour participer à une manifestation contre la visite du président israélien Isaac Herzog dans l'État la semaine prochaine. Les députés Cameron Murphy, Stephen Lawrence et Sarah Kane ont déclaré à plusieurs médias qu'ils comptaient assister à un rassemblement organisé par le Palestine Action Group dans le cadre d'une manifestation nationale. Le Premier Chris Minns a indiqué qu'il n'avait pas encore discuté avec les députés de leur intention de participer à ce rassemblement à Sydney.
I haven't. I mean, my hands have been full. I'm not sort of focusing on individual MPs and the comments that they make. We've got a massive responsibility here to keep the public safe during this visit and the understandable need for the Jewish community to grieve, as well as what we anticipate as a lot of people that want to protest.
Des informations contradictoires circulent selon lesquelles Israël aurait empêché des Palestiniens blessés de quitter Gaza par le point de passage de Rafah pour se rendre en Égypte quelques jours seulement après la réouverture officielle suite à sa fermeture depuis mai 2024. Israël dément ces allégations, affirmant que le point de passage fonctionnait normalement. Le ministère de la Santé de Gaza et les hôpitaux locaux font état de 21 Palestiniens tués lors de frappes menées dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont un ambulancier, un enfant et deux nourrissons. Les négociateurs ukrainiens, russes et américains ont qualifié de productive la première journée d'un nouveau cycle de négociations sur la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les progrès importants avaient été réalisés. Ces réunions trilatérales de deux jours interviennent après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait profité d'une trêve énergétique négociée la semaine dernière sous l'égide des États-Unis pour constituer des stocks de munitions avant d'attaquer l'Ukraine mardi avec un nombre record de missiles balistiques. L'administration Trump a exhorté Kiev et Moscou à trouver un compromis pour mettre fin à 4 années de conflit, mais les deux camps restent divisés sur des points clés, notamment sur la question territoriale. Le chef des opérations frontalières américaines, Tom Herman, retire 700 agents de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, du Minnesota quelques semaines après la mort de deux civils abattus par des soldats lors d'une opération de répression contre l'immigration clandestine. 2000 agents resteront sur place sous certaines conditions, notamment en collaborant avec la police locale et les autres autorités pour cibler les criminels dangereux. Human Rights Watch lance une alerte sur les attaques du président américain contre des piliers fondamentaux de la démocratie américaine, citant la politique migratoire restrictive de son administration, les menaces pesant sur le droit de vote et d'autres mesures. Selon certains indicateurs, le dernier rapport annuel de Human Rights Watch révèle que la démocratie mondiale est revenue à son niveau de 1985. Le directeur exécutif de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, a exposé certains des facteurs qui fragilisent la démocratie.
In just one year, it's actually incredible to see how the Trump administration has really undermined all the pillars of US democracy, all the checks and balances on power. These days still, you know, undermining the trust in elections, the sanctity of elections, going after the judiciary and judges, going after journalists.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 34 degrés, Adélaïde 32, Melbourne 23, Hobart 19, Canberra 36, Sydney 33, Brisbane 31, Darwin 32 et à Alice Springs, un maximal de 33 degrés. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
Actualité sportive de ce jeudi, une actualité dominée par le football avec la clôture de la saison des transferts et la suite des rebondissements de la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera également des JO d'hiver dont les compétitions sont déjà en cours. Mais tout d'abord, grosse surprise, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, a brisé son silence en affirmant qu'il était temps pour la Russie de retourner sur le terrain. Explication avec nos confrères de RFI.
J'ai toujours été contre les suspensions, les boycotts, et d'ailleurs cette suspension n'a rien apporté. Elle n'a fait que créer davantage de frustration et de haine.
Depuis février 2022, la Russie et ses clubs ne participent donc pas aux compétitions gérées par la FIFA, mais le CIO a lui autorisé certains athlètes du pays à concourir sous bannière neutre lors des JO de Paris en 2024, et d'autres fédérations sportives comme le judo ou le taekwondo ont depuis choisi de lever ces sanctions. Pour Gianni Infantino, le foot doit suivre le mouvement.
Avant ça, je n'avais jamais entendu parler de boycott, que les raisons soient commerciales, politiques ou diplomatiques. Alors pourquoi le football ? Nous devons nous unir, rassembler les gens, et ces gens veulent assister à la Coupe du Monde. Ils veulent simplement venir se divertir et passer du temps ensemble.
Des déclarations qui semblent déconnectées de la situation en Ukraine, mais saluées par le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. La Fédération russe s'est dit, elle, soutenir pleinement la position d'Infantino. De son côté, Kiev a dénoncé des propos irresponsables, voire infantiles.
Et toujours au football, mais côté australien, cette fois-ci sur le terrain. Hier, deux rencontres avaient lieu, comptant pour la 15e journée du championnat australien femmes. Western Sydney a créé la surprise en battant Melbourne City, leader de la A-League Women, 1-0, signant ainsi sa troisième victoire consécutive. City, qui enchaîne deux défaites pour la première fois depuis janvier 2024, ne compte plus qu'un point d'avance en tête du classement après 13 journées. Ce résultat permet à Western Sydney de quitter la dernière place et de se rapprocher à 4 points du top 6. L'équipe reste 10e après la victoire de Brisbane face à Sydney FC, 3-1 à Leichhardt Oval hier soir. Et demain commenceront des matchs de la 16e semaine de la A-League Women. Wellington Phoenix reçoit Perth Glory, Melbourne Victory jouera à domicile contre les Newcastle Jets. D'autres rencontres auront lieu dimanche prochain, donc Melbourne City qui recevra Brisbane Roar et Sydney FC qui reçoivent Canberra United et les Western Sydney Wanderers qui reçoivent Adelaide United. Côté homme, se joue cette semaine des matchs comptant pour la 16e journée. Demain, Wellington Phoenix reçoivent Melbourne Victory, donc c'est le seul match au tableau demain soir. Samedi, par contre, il y a plusieurs rencontres. On signale MacArthur qui reçoit Perth Glory, Auckland FC qui reçoit Sydney FC et Western Sydney Wanderers qui reçoivent Melbourne City, le Brisbane Roar qui reçoivent les Central Coast Mariners. Et dimanche, une seule rencontre au tableau, Adelaide United qui reçoivent Newcastle Jets. Sur le continent africain, à 6 semaines du coup d'envoi de la CAN féminine au Maroc, un championnat crucial pour les qualifications de la Coupe du Monde féminine, bien l'équipe nationale sénégalaise est toujours dans l'incertitude. Ainsi, les Lions de la Teranga ne savent toujours pas qui les dirigera pour succéder à Mamoussa Cissé. Explication, Babacar Fall, RFI.
Nous avons presque fini d'examiner les différentes candidatures et d'ici le week-end prochain, au plus tard, on saura qui va conduire les Lions à la prochaine CAN. C'est ce que nous confie au téléphone le secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football. C'est en fin novembre dernier, un mois après la qualification des Lions à cette CAN, que la FSF avait remis en jeu, contre toute attente, le fauteuil de Mamoussa Cissé, sélectionneur de l'équipe jusqu'ici. Pourquoi changer après une qualification héroïque face aux Ivoiriennes? Les dirigeants ne semblent pas convaincus par le jeu des Lions, surtout le manque d'efficacité de l'équipe. Mais Mamoussa Cissé ne lâche pas l'affaire. Il a bel et bien déposé son dossier à la fédération lorsque celle-ci a lancé son appel à candidature. Et il n'est pas le seul. Le nom de Mbaye Ntiam circule aussi. La coach de 42 ans, actuelle sélectionneuse des U20 filles du Sénégal, elle est par ailleurs entraîneuse du club de Bombay, le club d'Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de foot.
Toujours sur le continent africain, un peu plus de 2 semaines après la finale controversée de la Coupe d'Afrique des Nations, hier, la CAF, la Confédération africaine de football, a rendu son verdict disciplinaire contre le Sénégal et le Maroc. Explication, Victor Messistrano, RFI.
La CAF a prononcé des sanctions à la suite des incidents qui ont émaillé cette invraisemblable soirée, notamment le fait que des joueurs sénégalais, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw, avaient rejoint les vestiaires pour contester un pénalty accordé aux Marocains. On connaît la suite, le match avait repris, pénalty manqué et victoire sénégalaise après prolongation. La fédération sénégalaise a écopé de 615 000 dollars d'amende, Pape Thiaw de 100 000 dollars et 5 matchs de suspension, 2 pour les joueurs Illiman Ndiaye et Ismail Assar. Ce n'est pas suffisant selon la Fédération royale marocaine de football qui a annoncé hier faire appel de ces sanctions.
Le défenseur sénégalais Mamadou Sarr a signé hier avec Chelsea. Il s'était engagé l'été dernier, vendu par Strasbourg. Il avait été aussitôt prêté pour s'aguerrir. Il faut signaler que les deux clubs ont le même propriétaire. Écoutons la réaction de Kader Mangane, ex-international sénégalais et aujourd'hui coordonnateur sportif à Strasbourg.
Je suis super content pour lui, c'est une nouvelle étape, c'est sûr que le championnat anglais, c'est un championnat très relevé, il va s'exposer tous les week-ends, mais j'ai aucun doute que Mamadou va faire une superbe deuxième saison avec Chelsea. Notre entraîneur qui était là, Liam Rosenior, qui est reparti à Chelsea, a souhaité récupérer Mamadou. Mamadou, c'est un excellent joueur, donc je ne doute aucunement qu'il va s'acclimater rapidement avec son nouveau club.
Et toujours à propos des transferts, le club turc Fenerbahçe a confirmé hier la signature du milieu de terrain français N'Golo Kanté en provenance du club saoudien d'Al-Ittihad. Et toujours à propos des transferts, la fenêtre des transferts du mercato d'hiver vient de se clôturer, ce qui a vu plusieurs joueurs de Ligue 1 partir à l'étranger, mais pas seulement outre-Manche. On signale l'attrait des clubs saoudiens et turcs, l'aspect financier jouant un rôle de plus en plus déterminant. Explication, Thibaut de Saint-Léger, RFI.
Contre la coquette somme de 100 millions d'euros, le Stade Rennais a perdu deux joyaux, deux espoirs français, Jérémy Jacquet, défenseur cédé à Liverpool pour la saison prochaine, et l'attaquant Kader Meïté, 29 matchs de Ligue 1 dans les jambes, transféré avec effet immédiat à Al Hilal en Arabie Saoudite. L'entraîneur Habib Bey est résigné.
J'ai parlé avec Kader, il était hors de question pour lui de rester au club. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le garder? Vous avez quoi du joueur derrière si vous le privez d'aller chercher ce qu'il pense être le contrat de sa vie ou l'opportunité de sa vie?
Pour les clubs aussi, l'opportunité est trop belle avec la crise des droits télé. L'autre source principale de revenus, la vente des meilleurs actifs est inévitable. Même quand le propriétaire a l'air insolite, c'est le cas de Rennes détenu par la famille Pinault. L'économiste du sport, Christophe Lepetit.
Quand bien même ils ont de l'argent, ils sont aussi des hommes d'affaires qui tentent d'équilibrer leur budget. Comme le seront d'autres, y compris des clubs qui ont été récemment rachetés, je pense en particulier au Paris Football Club, qui est plutôt dans une stratégie d'investissement aujourd'hui, mais qui rentrera à terme dans les mêmes considérations économiques. Et donc, on subit l'assaut de clubs étrangers.
Ces clubs étrangers généreux en transfert et en salaire sont aujourd'hui plus nombreux. Le très convoité Sidiki Chérif, attaquant formé et révélé à Angers, vient de rejoindre Fenerbahçe, deuxième du championnat turc, toujours en course en Ligue Europa, preuve que l'intérêt sportif peut parfois s'accorder avec l'aspect financier.
Et toujours au football, en championnat français, hier, l'OM a battu Rennes 3-0. Autre match de Ligue 1, demain, Metz reçoit Lille. Samedi, Lens joue contre Rennes. Brest joue contre Lorient. Nantes reçoit l'Olympique Lyonnais. Et dimanche, Nice jouera contre Monaco. Angers contre Toulouse. Auxerre, Paris FC. Le Havre jouera contre Strasbourg et le PSG recevra Marseille. Et aux Jeux Olympiques d'hiver, la championne olympique en titre, Jakara Anthony et son compatriote Mark Graham, médaillé en ski de bosse, mèneront la délégation australienne en tant que porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. La composition de l'équipe a été révélée dans la nuit de vendredi à samedi, à deux jours de la cérémonie d'ouverture officielle au stade olympique San Siro de Milan. Jakara Anthony s'est dit encore sans voix face à cette nomination à la tête de la délégation australienne.
As an Olympic athlete in Australia, I think it's one of the biggest honors you can have bestowed upon you. I mean, even just making the team is such an honor, and to get the opportunity to lead the team out into the opening ceremony with my teammate Matt Graham as well. I couldn't have asked for anything more.
Il faut signaler que la 25e édition des Jeux Olympiques d'hiver a la particularité d'être très éclatée entre Milan et six autres sites de montagne. Cela multiplie les contraintes et isole les athlètes dans leurs zones respectives. Écoutons la réflexion de Perrine Lafont, championne olympique de ski de bosse dans l'édition 2018.
Forcément, ça perd un petit peu de cet esprit olympique qu'on aime avoir. Quand j'ai fait Sochi ou même Pyeongchang, on a eu la chance de pouvoir aller voir d'autres épreuves et tout. On était dans les villages aussi avec d'autres athlètes. Là, on va être que le snowboard et le freestyle. Donc, c'est vrai que ça va réduire un petit peu cette émulation qu'on aime tant olympique à courir dans tous les couloirs pour avoir les pins des nations les plus stylées, de la Jamaïque ou des pays un petit peu exotiques comme ça. Mais je pense que c'est bien aussi parce que, on va être sur des jeux un peu plus vertueux en termes d'écologie, avec des sites où il y a eu peu d'aménagements qui ont été faits comme sur d'autres Olympiades. Et je pense que voilà, il faut savoir vivre avec son temps aussi, prendre en compte ce réchauffement climatique. C'est aussi ça l'esprit olympique, c'est respecter des valeurs qui sont importantes de nos jours. Et du coup, on est en accord avec ça.
La cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver, c'est donc demain soir, mais certaines épreuves ont déjà commencé. 10 nations sont en lice dans ce cercle restreint, dont l'équipe de France. Des tricolores qualifiés de justesse, mais qui n'entendent pas faire que de la figuration. Christophe Diramtian.
Fin mai dernier, l'incertitude laisse la place au bonheur. Deuxième de leur tournoi de qualification olympique trois mois auparavant, les Bleus apprennent en plein stage qu'elles verront bien Milan, la Russie restant exclue des JO, ce graal que la capitaine tricolore Laure Boudrit dédie à tout un hockey féminin qui en rêvait.
Moi j'avais un très très bon groupe d'amis qui a pris sa retraite en 2022. Quand on a finalement su hockey, on est qualifié. La première chose que j'ai pensé, c'est à toutes celles d'avant qui ont bâti cette équipe. On a repris le flambeau et on amène l'équipe aux JO, mais c'est le travail de toutes les générations précédentes.
Une belle récompense aussi pour des joueuses d'ordinaire éloignées des radars médiatiques et qui peinent à vivre de leur sport, contraintes de concilier carrière en club et job d'appoint ou financement participatif. Mais face aux stars professionnelles, pas question de faire de la figuration, la défenseure Sophie Leclerc.
Notre objectif, ça va être surtout de montrer qu'on a complètement mérité notre place aux JO. On va pas se satisfaire de juste dire on a déjà fait tout ce parcours-là. Le but, c'est quand même de viser haut, d'avoir un objectif certes qui va être difficile à atteindre, qui va demander qu'on fasse vraiment à chaque fois des bons matchs pour y arriver. Mais en fait, ouais, on a tous cette compétition en nous et on veut viser haut.
C'est-à-dire au moins les quarts de finale avec la perspective de croiser en forme de défi ultime les Américaines ou les Canadiennes qui se sont partagées tous les titres olympiques depuis l'apparition de la discipline chez les dames en 1998.
Et un mot de rugby, lancement ce soir du tournoi des Six Nations. Les tricolores, tenantes du titre, reçoivent ce soir l'équipe d'Irlande. Deux autres rencontres. Dimanche, l'Écosse jouera contre l'Italie et le Pays de Galles jouera contre l'Angleterre. C'est tout pour l'actualité sportive de ce jeudi. Suite du programme dans quelques instants.
Et bientôt 27 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Comme chaque jeudi, maintenant, on passe au journal de l'économie.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
La Banque centrale d'Australie a mis fin à deux ans de statu quo en relevant ses taux d'intérêt. Une décision qui a déclenché des débats houleux parmi la classe politique. Ainsi, les dépenses publiques sont-elles responsables d'une inflation galopante qui aurait motivé la décision de la Banque centrale ou est-ce la demande privée qui génère la hausse des prix? Alors que le trésorier défend son budget en mettant l'accent sur des pressions externes, l'opposition fédérale et les Verts dénoncent quant à eux une politique qui punit les Australiens au quotidien tout en ignorant d'autres leviers économiques.
I'm going to do my grocery shopping now and yeah, I've got to watch every penny. I'm not in the market at the moment and I probably won't be entering it for a long time.
I believe in the future our kids can't buy a house. It's going to be like a rental system, even if it's buying, all their life they're going to pay it. They're not going to have life. Even if I'm working, they're saying $125,000 or $160,000. How are you going to pay the loan?
Ces témoignages font suite à l'annonce de la Banque centrale australienne plus tôt cette semaine de relever les taux d'intérêt. La RBA, ou Reserve Bank of Australia, institution indépendante, a ainsi porté le taux directeur de 3,6% à 3,85%. Il faut signaler que c'est la première hausse du taux d'intérêt en plus de deux ans. L'Australie devient ainsi la deuxième économie avancée, juste après le Japon, à entamer un nouveau cycle de resserrement monétaire. Face aux critiques qui pointent du doigt les dépenses publiques comme élément déclencheur de l'inflation, et qui, en même temps, ralentit le secteur privé. Le ministre du Trésor, Jim Chalmers, a répliqué lors d'une séance agitée au Parlement. Selon lui, le rapport de la Banque centrale est formel. C'est la demande privée et non les dépenses publiques qui est le principal moteur de la hausse des prix.
It makes it very clear that the pressure on inflation is coming from private demand. Let me make this really clear. This is the Reserve Bank Board in their statement just released, Mr. Speaker. Growth in private demand has strengthened substantially more than expected, Mr. Speaker. This is the point that the Reserve Bank has made today.
Le docteur Karl Marx affirme que les critiques contre les dépenses publiques sont plus motivées par l'idéologie que par les faits. Tout en reconnaissant que les taux ont grimpé plus haut que ce que le gouvernement espérait, le docteur Chalmers souligne l'urgence de s'attaquer à l'inflation et de réformer la productivité, ce dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain. Alors que la Banque centrale a relevé le taux en arguant vouloir juguler l'inflation, le trésorier a pris la parole sur l'antenne des ABC pour défendre son budget. Conscient de la pression sur le coût de la vie, Jim Chalmers assure que le gouvernement met tout en œuvre pour alléger le quotidien des foyers australiens.
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure, we're acting on that. Cheaper medicines, which came out last month, more bulk billing, student debt relief, three tax cuts. That's all about acknowledging and acting on the very real pressures that people are feeling in our community and around our country.
Malgré les déclarations de la Banque centrale, la chef de l'opposition, Susan Lee, persiste. Pour elle, l'inflation galopante est une conséquence des dépenses publiques incontrôlées.
Australians are struggling even more with the cost of living crisis. This is Labor's cost of living crisis. When Labor spends, prices rise and Australians pay. And I've been speaking to a lot of mums, and I know my colleagues have. And as they look at the expenses of going back to school last week and this week, and they're staring straight down the barrel of possibly more interest rate rises.
De son côté, la leader des Verts au Sénat, Larissa Waters, pointe du doigt le marché immobilier spéculatif comme vecteur principal de l'inflation.
We know the reason the housing market is overheated is the policies of this government to prop up property investment and to give billions of dollars to property investors rather than helping first homeowners and renters. Those are the policy settings that the government should have fixed, but instead the government is delivering for the big banks, just like they deliver for their big corporate mates all the time.
Pour le docteur Tim Thornton, directeur de l'école d'économie politique à la Trobe University, le niveau des dépenses publiques par rapport au PIB n'est pourtant pas particulièrement élevé en Australie par rapport aux autres pays de l'OCDE. Il rappelle que la hausse des taux d'intérêt n'est pas le seul levier pour juguler l'inflation.
Well, there are actually a range of other tools that can be used to manage inflation beyond simply lifting interest rates. Most, but not all of these, would be the responsibility of the government rather than the Reserve Bank of Australia. These tools include price controls, credit controls, rationing, establishing buffer stocks, and also what are called income policies, which are political agreements between different stakeholders in society. Now, it's currently the intellectual fashion to vehemently dismiss these other tools as being somehow outdated or even discredited. I think this is quite the mistake, as all of these tools have been used successfully in Australia in the past, and at least some of these could be used again and in the future.
Le docteur Andrew Grant, professeur associé de finance à l'Université de Sydney, prévient quant à lui qu'on peut s'attendre à d'autres hausses de taux d'intérêt.
So typically, when the Reserve Bank increases rates, they don't typically stop at one increase. Historically, it's sort of been a sign that there might be two or three in a row. We typically have seen that there's, you know, a bit of momentum in these things. So I wouldn't be surprised at all if, you know, we get another rate increase before the end of the year or even before the end of the financial year, especially if this sort of struggles to put a brake on inflation. So that's what I will expect to see.
Ce reportage a été produit par Brianna Charles pour SBS News et traduit en français par Bertrand Tungandami.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
13h et bientôt 34 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Petite pause musicale en compagnie du groupe Il est vilaine avec Simone Ringer qui nous interprète Femme peinture. 13h37 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et on passe à la deuxième partie de l'interview avec Frédéric Alliot, responsable du cinéma français en Australie à l'ambassade de France. Il fait le point sur le programme officiel qui a été lancé récemment, donc la 37e édition du festival. Il est avec Christophe Mallet.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Eh bien aujourd'hui dans les studios, on a le plaisir de recevoir Frédéric Alliot. On va parler bien entendu de cinéma. Bonjour Frédéric.
Bonjour Christophe.
Alors juste pour nommer quelques films, quelques sommités, il y aura pendant ce festival... Alors, peut-être pas, en tout cas probablement pas en Australie, pour ce festival Isabelle Huppert. On sait qu'elle est dans les parages, c'est pas sûr qu'elle passe et ce serait une belle surprise, mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais c'est des films avec Laure Calamy, enfin il y a vraiment du beau monde sur votre sélection. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les films? Peut-être on va pas parler des 38 films, et il faudrait aller voir sur le site internet pour bien comprendre la complexité et l'intégralité, j'aurais plutôt dire, de ce festival. Mais quelques films marquants pour vous sur cette sélection.
Bah, très clairement, on a un film qu'on appelle le centerpiece, le plat de résistance, si on peut dire, avec Isabelle Huppert, c'est la femme la plus riche du monde. Mm-hmm. Donc c'est une adaptation, c'est à Cannes également, c'est une adaptation en fait de la vie de Liliane Bettencourt. Ouais. Et alors ils ont changé les noms, mais les faits restent réels.
On comprend bien l'histoire.
Effectivement, donc ça très 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 clairement, ça va être un grand film pour nous. Effectivement, il y aura la venue d'Isabelle Huppert au Festival d'Adélaïde, pas au Festival du film français. Mm-hmm. C'est deux événements séparés, mais évidemment, ça va attirer l'attention sur ce film. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment attirer l'attention. Ensuite, on a effectivement nos événements signatures comme Taste of France. Généralement, ça marche chaque année. Il y a vraiment un intérêt pour les films sur la gastronomie. Donc cette année, on a un film de Régis Varnier qui s'appelle La Réparation, Redress en anglais, qui est une sorte de thriller où on va en fait commencer dans un restaurant de campagne qui a des étoiles Michelin. Mm-hmm. Et puis, on va suivre la disparition du chef cuisinier jusqu'à Taïwan. Et on va découvrir la scène de la fusion, la food fusion à Taïwan. On a aussi Ladies Night, pareil, ça fait partie de nos événements signature, avec cette année le film qui s'appelle Cycle of Time. En français, c'est « C'était mieux demain ». Voilà. Avec Didier Bourdon, c'est un peu le « Back to the Future » français avec Didier Bourdon en Michael J. Fox. On fait la plaisanterie, d'accord, évidemment, mais le film, il est très drôle. Et puis, c'est un message.
Bizarrement, ça ne me le vend pas, mais bon, allons-y.
Donc, c'est un film qui a un message, parce qu'effectivement, à une époque où on dit « Ah, c'était mieux avant », on se rend compte, en tout cas, quand on était une femme, que les années 50, c'était pas forcément mieux.
C'est bon pour tout le monde, quand on s'aperçoit que les douches chaudes, ça date que des années 70. Avant, il n'y avait pas forcément une douche chaude dans toutes les maisons, donc... Vous pouvez y penser tous les matins quand vous prenez la vôtre, ça c'est certain.
Et puis on a Laure Calamy effectivement, parce qu'elle est très populaire ici, dans deux films, un qui s'appelle C'est quoi l'amour, What is love, qui est une comédie très drôle qui va vous emmener jusqu'en Italie sur l'histoire d'un mariage qu'un couple qui a divorcé souhaite faire annuler pour pouvoir se remarier religieusement. Alors, c'est quelque chose de peu connu qui est réel. J'en parle parce que c'est arrivé à quelqu'un de très proche de moi très récemment. Mm-hmm. Donc, finalement, c'est un vrai sujet. Et elle est aussi dans cette comédie qui était à Cannes également, qui s'appelle Classe moyenne, The Party's Over, qui est une sorte de comédie sociale assez mordante, qui est très drôle. C'est ce qu'on a d'ailleurs projeté hier dans le cadre de notre lancement média.
Il y a aussi un film dans la section Classic Movie, bien sûr. C'est Un homme et une femme de Claude Lelouch.
Bah oui, je parlais effectivement de romantisme qu'on associe évidemment avec...
Plus romantique que ça.
Il n'y a pas plus romantique que ça. C'est le 60e anniversaire du film, restauré en version 4K. C'est un classique. Il avait gagné des Oscars, etc. Donc pour nous, effectivement, c'était un must. À partir du moment où c'était son anniversaire qui était restauré, de le présenter, oui, évidemment. C'était un no-brainer, comme on dit.
C'est dur d'avoir un festival sans Claude Lelouch, parce qu'il a quand même fait beaucoup de films tous les ans. Il tourne encore. Enfin, on parlait de grand monsieur du festival. Claude Lelouch, ça serait intéressant de voir combien de films de Claude Lelouch il y a eu dans l'histoire du festival. Ça va être assez mémorable quand même.
Bah c'est vrai qu'à une époque, il devait faire un film par an. Alors c'est vrai qu'il est moins prolifique depuis ces dernières années. Parfois, la qualité est inégale, je vais être assez honnête.
Oui.
L'année dernière, il y a un film qui m'avait plutôt séduit, donc on a remis Lelouch dans la programmation. Et puis là, effectivement, c'est un concours de circonstances, mais pour moi, le film est un incontournable.
C'est un chef-d'œuvre, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses marquantes que vous pouvez nous divulguer maintenant?
Par exemple, on a des choses qu'on fait pas toujours régulièrement. Par exemple, on a un film de science-fiction cette année avec Chien 51, Dog 51, qui a été un succès au box-office avec
plus d'un million d'entrées en France.
C'est ça exactement. Donc, c'est suffisamment rare pour être noté. Et puis,
gros budget par contre derrière. C'était un des plus gros budgets du cinéma français l'année dernière.
C'était un des plus gros budgets. Oui, c'était effectivement une grosse sortie. Et puis, on a pas mal de choses, des adaptations de livres, de grands classiques littéraires, évidemment. Je pense à Jean Valjean, qui est une toute petite partie des Misérables. C'est vraiment le début. C'est vraiment quand Jean Valjean sort du bagne. Et puis voilà, sa rencontre avec le prêtre, le nom m'échappe là tout de suite, mais qui va le faire revenir à son humanité pour devenir le héros qu'on connaît. Et puis, bien évidemment, le magnifique film de François Ozon, L'étranger, adapté du roman d'Albert Camus, qui est absolument magnifique.
Et surtout, on va pas faire de politique ici, mais qui décrit un monde politique qui, avec certaines frayeurs, pourrait revenir assez rapidement. Et ça fait peur. C'est ça aussi, L'étranger. C'est pas simplement un roman. C'est un livre. Si vous avez pas lu L'étranger, lisez L'étranger. C'est un livre incroyable. Et donc le film doit l'être également.
Exactement. Il résonne avec l'actualité. On a différents films qui très clairement résonnent avec l'actualité. Je pense évidemment au film, par exemple, Dossier 137. De Dominique Moll, qui est à Cannes également en sélection officielle. C'est une enquête de la police des polices sur une brutalité policière. Alors, quand on voit par exemple les événements aux États-Unis en ce moment, je ne veux pas pointer du doigt, mais ça reste d'actualité et ça reste universel.
Absolument. Et pour conclure, vous avez un film qui s'appelle Le Routard. Sur un jeune qui part, qui prend sa chance, qui va au guide du routard et qui va tester un peu des parties du monde et guidé par ce guide du routard, justement.
Oui, il cherche un job, on lui propose une opportunité d'être guide, il l'a jamais été, il ment et il part en explorateur au Maroc.
Au Maroc, tout à fait.
Et c'est assez drôle, alors, c'était une thématique qu'on avait un peu développée cette année, qui est celle du voyage à travers le temps, je le mentionnais, mais aussi géographiquement, on va vraiment voyager à travers le cinéma français. Et là, du coup, on voyage avec un guide, c'est le pire des guides, mais c'est très drôle.
Ouais, tout à fait, absolument. Alors, la barre, c'était 200 000, c'est ça? C'est l'objectif? Si on parle pas un chiffre, c'est pas un chiffre, mais globalement, 200 000, ça vous ferait plaisir?
Bah, ça me ferait plaisir parce que ce serait symbolique et puis voilà, mais c'est un petit challenge personnel que je me donne, personne ne m'y oblige, mais bon, on se lance des défis parfois.
D'accord, il y a des moments dans le festival où vous sentez que ça l'énergie, la synergie prend. C'est pour vous, c'est pas votre premier festival, vous en êtes donc déjà à votre deuxième, c'est ça, votre second. Vous sentez que ça, à un moment du festival, on sent que la sauce prend ou ça devient compliqué. Il y a des moments comme ça dans le festival qui sont clés, qui vous retirent un peu la pression.
Il y a très clairement le départ, évidemment, puisque ça crée un engouement. Après, le festival est long. Alors sur les villes principales, capitales, c'est 5 semaines, et puis après il y a une tournée régionale. Donc effectivement, faut quand même remettre un peu de charbon dans la machine, oui, pour que ça puisse continuer. Donc il y a une communication quand même assez massive. Néanmoins, on remarque, et c'est pour ça qu'on est passé à 5 semaines, qu'il y a une montée en puissance. C'est-à-dire qu'il y a un word of mouth qui se fait, un bouche à oreille, et que le festival, on le voit, on a des chiffres très clairement, prend de l'ampleur et il s'essouffle pas. Et c'est pour ça qu'on a étendu aussi la durée du festival. Alors effectivement, faut relancer l'intérêt. Et puis de temps en temps, on a eu le cas l'année dernière, on voit des films qui commençaient un peu à vampiriser la communication et puis les spectateurs qui passaient à côté de films qui me semblaient être très bons et c'était dommage. Donc évidemment, on a discuté de certains highlights ensemble, mais effectivement, il y a plein d'autres films et qu'effectivement, à un moment donné, on les met aussi un peu en avant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir dans le cadre du festival. 38 films, c'est un peu moins que l'année dernière, on en avait 42, ça reste beaucoup. Et puis, il y a des perles qui, parfois, retiennent moins l'attention du public. Donc, ça permet aussi d'être des éléments pour relancer la machine en cours de route.
Absolument. Alors, vous nous rappelez où on peut trouver les informations, parce qu'il y a un site internet dédié. Bon, il y a les réseaux sociaux, mais il y a un site internet dédié également.
Effectivement, on a un site internet qui est affrenchfilmfestival.org qui sera en ligne à partir du 5 février. Et à partir de là, vous pourrez voir tous les films dans toutes les villes et puis commander vos tickets en pré-vente à ce moment-là.
C'est ça, ce qui est important, c'est que le festival, il est pas en février, mais ça débute là tout de suite. Hein. C'est cette semaine. Hein. On peut acheter les billets à partir de cette semaine.
Exactement, oui, un mois à l'avance, c'est ça.
Impeccable. Merci d'être venu nous voir et c'est toujours un moment de joie de parler de culture française et bien entendu de cinéma français et encore plus du Festival de l'Alliance française comme tous les ans. Merci.
Merci Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
13h et bientôt 47 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et vous pouvez écouter SBS French les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 13h. Vous pouvez aussi télécharger l'application SBS Audio et vous abonner à SBS French et Easy French. Vous pouvez également écouter le contenu audio de SBS French à tout moment via YouTube, Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes. Et enfin, d'émission, un rappel des titres du journal de ce jeudi. Le coroner de Nouvelle-Galles du Sud a rendu ses conclusions suite à l'enquête sur les attaques mortelles à l'arme blanche au centre commercial de Westfield Junction de Bondi en avril 2024. L'administration Trump a exhorté plusieurs pays, dont l'Australie, à se joindre à une nouvelle alliance commerciale sur les minéraux critiques afin de contrer la domination chinoise dans ce secteur. Les tensions internes empêchant la réformation officielle de la coalition, la sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, défend le refus de son parti d'accepter une suspension temporaire du cabinet fantôme.
Trois heures de vol vous séparent de lui.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. On vous laisse avec Sophie Morin, Paris-Melbourne. Belle fin d'après-midi. À bientôt.
Vous quittez définitivement l'espace Schengen aux alentours de midi. Les fuseaux horaires et les paysages défilent. Sur votre écran apparaît la course de l'appareil et l'avancée du jour sur la nuit. Voix off céleste encombrée de sons parasites. Le commandant annonce l'heure d'arrivée et la température à destination.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.